Content d'être avec vous, chers amis. Bienvenue à vous si vous êtes là pour la toute première fois en visite dans cette église. On fait maintenant comme on fait chaque dimanche, on ouvre le passage suivant et on veut se mettre à l'écoute de ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui au travers de sa parole. On a commencé une série de prédications dans le livre des Actes. On est à acte 17 maintenant et donc on va voir le passage qu'on a lu, on va l'étudier ensemble. Je vous invite à garder le livret ou alors votre Bible ouverte dans acte 17 pour qu'on étudie ces versets ensemble. Et en particulier, ce passage va nous aider à voir à quoi ça ressemble de proclamer Dieu quand tous le rejettent. À quoi ça ressemble de proclamer le seul vrai Dieu qui existe là où tout le monde le rejette. Je pense que ce n'est pas une surprise pour vous, peu importe d'où vous venez, même si vous êtes ici en passage ou si vous habitez ici à Bruxelles, de dire que l'on vit dans un monde qui rejette Dieu. Ou croire en Dieu, ce n'est pas forcément à la mode, ce n'est pas forcément la majorité, c'est quelque chose qui est minoritaire. Ce matin, vous êtes venu à l'église, vous avez pris du temps, de votre temps, pour vous réunir avec une église, peu importe que ce soit ce que vous faites de manière régulière ou de manière occasionnelle. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Ce n'est pas la liste des habitudes, dans la liste des habitudes des Bruxellois le dimanche matin. Il n'y a pas aller à l'église en priorité, n'est-ce pas? C'est une minorité de croire que Dieu existe, de reconnaître Dieu. Et même en fait, parler de Dieu, parler de la religion, c'est un peu le genre de sujet qui peut provoquer des sourires gênés. Vous savez, il y a une conversation avec beaucoup de gens qui discutent, tout va bien, il y a une bonne ambiance. Vous parlez de Dieu, vous parlez de la religion, la conversation s'arrête. Et les gens se regardent peut-être un peu gênés. Oula, mais de quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit? D'où est-ce qu'il vient? Comment proclamer Dieu, le seul vrai Dieu, là où tous le rejettent? Le passage qu'on va étudier ensemble va nous aider à le faire. On voit que Paul continue son voyage pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. On a vu qu'il a été à Thessalonique. Il a été à Bérée, c'était les deux derniers dimanches, on a vu ça ensemble. Et dans les deux endroits, Paul a dû partir plus tôt que prévu, à cause de l'opposition qu'il a rencontrée. Et là, Paul se retrouve à Athènes, en train de devoir attendre Silas et de devoir attendre Timothée. Et on va voir que Paul va proclamer Dieu là où tous le rejettent. Vous avez un plan sur le feuillet qui va vous aider à voir où on va aller ensemble. Trois choses qu'on va voir dans ce texte. Et la première chose, Paul va nous montrer comment bien réagir face à une culture qui est éloignée. Bien réagir face à une culture qui est éloignée, qui est loin de Dieu. On va voir ça dans les versets 16 à 21. Paul a du temps devant lui. Il attend que ses compagnons de voyage arrivent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite pour se promener. Il en profite pour voir un peu la ville. Il ne s'agit pas de n'importe quelle ville, il s'agit d'Athènes, la grande ville d'Athènes, la plus importante du monde grec de l'époque, le royaume de la philosophie, la ville de Socrate et de Platon, où tous ces gens se rassemblent, l'élite intellectuelle, les grands mouvements de pensée qui allaient influencer le monde ou ceux qui avaient influencé le monde, tout cela sont rassemblés ici à Athènes. On voit d'ailleurs que notre texte mentionne au verset 18 les épicuriens, les stoïciens, deux grands mouvements philosophiques, deux grandes manières de penser de l'époque, de concevoir le monde qui était présent à Athènes. Il nous est aussi dit que dans cette ville, les gens aimaient écouter des nouvelles choses. Au verset 21, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. C'est une ville où les idées bougent. La ville des intellos et de la philo, l'usine des machines à penser de ce monde, des systèmes de pensée de ce monde. Et c'est là que Paul, l'apôtre Paul, qui est juif, qui était pharisien, qui est devenu chrétien, celui qui passe son temps à proclamer la bonne nouvelle de Jésus, c'est là, à Athènes, que Paul se trouve. Et alors que Paul se promène dans cette ville, alors que Paul est confronté à ce que les gens croient, alors que Paul est confronté au système de pensée de la ville d'Athènes, il n'est pas impressionné. Il n'est pas en train de prendre des selfies de ses vacances à Athènes pour les montrer à ses amis en rentrant. Non, plutôt Paul est indigné. Il est indigné par cette culture qui rejette le seul vrai Dieu. Regardez le verset 16, regardez ce qu'il nous est dit par rapport à Paul. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Athènes était remplie d'autels consacrés aux différents soi-disant dieux. C'était une culture pluraliste, où il y avait plein de dieux qui coexistaient, plein d'objets de culte différents, plein de visions différentes de la spiritualité, les uns à côté des autres. Et c'était une ville où il n'y avait pas la connaissance du vrai Dieu. C'est une ville où le cœur des gens n'était pas tourné vers le seul vrai Dieu, mais le cœur des gens était tourné vers toutes sortes d'idoles, encore et encore, de manière évidente, de manière visible. Alors d'une certaine manière, notre culture aujourd'hui est différente. On ne retrouve pas en se baladant dans la rue des autels consacrés à des divinités. Notre société rejette l'existence de Dieu, ou est en tout cas très sceptique par rapport à l'existence d'un être supérieur. Mais d'une certaine manière, notre culture est très similaire à Athènes. C'est aussi une culture pluraliste où il y a plein de différentes visions de la spiritualité qui cohabitent ensemble, plein de différents systèmes de pensée. Et c'est une culture où la connaissance du vrai Dieu est mise de côté. En fait, la spiritualité est vue un peu aujourd'hui comme le fait d'aller au marché. Tu vas au marché de la spiritualité, au marché de la religion, et puis il y a des différents stands qui sont là. Puis tu peux créer ton propre panier. Tu peux piocher dans les stands ce que tu veux, ce qui t'intéresse, et rejeter le reste. Et chacun se crée sa propre spiritualité. Chacun se crée sa propre religion. Comme on le verra, chacun se crée son propre Dieu. Et en faisant cela, la connaissance du seul vrai Dieu est mise de côté. Et c'est ça qui est le plus choquant pour Paul. Il nous a dit que Paul a l'esprit exaspéré face aux idoles au verset 16. Il est indigné que le vrai Dieu soit mis de côté, ignoré, et que l'adoration qui devrait revenir à Dieu est donnée à des idoles qui ne sont pas Dieu, des idoles que les humains ont créées. Donc la réaction de Paul montre sa priorité. Il désire la gloire de Dieu plus que toute autre chose. Et ça ne va pas s'arrêter là. Le fait d'être indigné pour Paul, d'être exaspéré, ne va pas l'amener à fuir, ne va pas l'amener à aller dans une autre ville. Plutôt, ça va amener Paul à rester et à échanger avec les gens de cette ville. On le voit au verset 17, juste après ce fait que Paul est exaspéré par les idoles, indigné. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Verset 17, « Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu. » Et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qui s'y rencontraient. Comme à son habitude, Paul va aller dans la synagogue pour parler aux Juifs, pour leur montrer que l'Ancien Testament pointe vers Jésus, que c'est lui le Messie. Mais Paul va aussi discuter sur la place publique, le lieu où on échangeait à l'époque, avec tous ceux qu'il rencontre. Même avec ces gens qui adorent des idoles, même avec ces gens qui rejettent le vrai Dieu. Le fait d'être indigné par les idoles n'amène pas Paul à mépriser ces gens-là, à les rejeter, à les mettre de côté, à les aborder avec mépris. Mais ça l'amène plutôt à vouloir entrer en conversation avec ces gens pour les amener à la connaissance du vrai Dieu. Et sur cette place publique, même si le contexte est différent que d'habitude, Paul va partager le même message. Il nous est dit au verset 18, à la fin du verset. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Il va le partager avec une forme différente, comme on va le voir, mais c'est le même message. Et c'est utile d'observer, de s'arrêter sur cette bonne réaction de Paul face à une culture qui rejette Dieu. Face à une culture qui non seulement ignore qui est le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, mais aussi qui rejette la foi chrétienne, qui rejette la connaissance du vrai Dieu. Parce qu'il y a des mauvaises réactions qu'on pourrait avoir. Une mauvaise réaction, ce serait de se laisser aller dans cette culture, de se mixer avec la culture où on n'arrive plus à distinguer qu'est-ce qui nous différencie de la culture, de se laisser aller avec le courant de la culture, prendre la couleur du monde qui nous entoure, adopter un mode de pensée pluraliste où chacun peut avoir sa vérité, où c'est intolérant de dire à quelqu'un qu'il a tort et que cela nous amène à ne plus oser déclarer les vérités que la Bible enseigne, même quand ça va à contre-courant de la culture. Ça, ce serait une mauvaise réaction. Une autre mauvaise réaction, ce serait de fuir la culture. On est indigné, mais sans que ça nous pousse à interagir avec la culture qui nous entoure. On est plutôt indigné, et on n'est pas prêt à payer le coût de vivre au sein de cette culture, où ce serait un peu inconfortable d'être différent, de penser différemment, de vivre différemment. Alors on fuit. On fuit peut-être pas physiquement, mais on élève des murs autour de nous pour vivre dans notre propre bulle chrétienne, notre propre ghetto chrétien, juste entre nous, sans les autres. Ou encore, on peut interagir avec la culture qui rejette Dieu, mais pas le faire de la bonne manière, avec le bon ton, avec la bonne démarche, le faire avec un ton rempli de haine, rempli de supériorité, de mépris, qui ne cherche pas à comprendre ce que les gens pensent, qui ne cherche pas à les amener à la connaissance de la vérité, mais qui cherche uniquement à les condamner, à les rejeter, qui provoque plus de distance entre eux et nous. Non, Paul nous montre ici la bonne réaction face à une culture qui est éloignée, qui est loin de Dieu, qui rejette Dieu. Oui, on veut s'indigner, parce que la gloire de Dieu est en jeu. Quand on regarde le monde autour de nous, quand on voit à quel point le nom de Dieu est méprisé, l'honneur de Dieu est méprisé, quand on voit à quel point le nom de Dieu est pris à la légère, quand on voit que les gens ignorent le seul vrai Dieu qui les a créés, on devrait ressentir quelque chose au-dedans de nous. Ça devrait produire quelque chose en nous, parce que Dieu mérite toute la gloire. Dieu mérite tout l'honneur. Comme on va le voir, il y a un Dieu qui existe. Il est le Créateur et il est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, c'est une aberration qu'il soit mis de côté à ce point-là. Et ce qu'on doit ressentir, c'est une indignation par amour pour Dieu, par égard pour sa gloire. Parce que parfois, on peut ressentir de l'indignation par rapport au monde qui nous entoure, mais c'est plutôt égoïste, c'est plutôt tourné vers nous-mêmes. On peut se lamenter, par exemple, de la manière dont la sexualité est vécue autour de nous, loin de ce que Dieu met en avant dans la Bible, mais est-ce qu'on s'en lamente parce qu'on est tellement passionné par la gloire de Dieu ? Parce qu'on est attristé que son nom ne soit pas honoré? Ou est-ce qu'on s'en lamente parce que c'est inconfortable pour nous de vivre dans un tel monde? Parce qu'on a du mal à interagir avec ceux qui pensent différemment de nous? Parce qu'on pense qu'on est supérieur à eux? Alors qu'en réalité, la seule différence entre eux et nous, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Et tout comme Paul, on veut que cette indignation nous pousse à interagir avec le monde qui nous entoure. Donc elle nous pousse à le faire de la bonne manière, pas à nous isoler, mais à vivre dans ce monde en étant différents, en conversation avec ceux qui nous entourent, pour les amener à la vérité. Il y a beaucoup plus qu'on pourrait dire là-dessus, on mentionnera quelques éléments brefs en conclusion, mais voilà quelques éléments de bonne réaction de Paul. Et on voit que alors que Paul est en train d'avoir ses interactions avec ceux qui l'entourent, avec ceux qui rejettent Dieu, il y a différentes réactions, on le voit au verset 18. Pour certains, Paul est un discoureur, il est dit, c'est comme ça qu'il l'appelle. Quelqu'un qui ne fait que répéter des choses qu'il ne comprend pas lui-même. Son message n'a aucun sens, c'est incohérent. Pour d'autres, Paul annonce des divinités étrangères. Ils ne savent pas qui est ce Jésus que Paul leur annonce. Et l'idée d'une résurrection leur paraît si bizarre que c'est comme une toute nouvelle religion. Mais ça interpelle quand même certains. Et on voit que Paul est amené à s'expliquer devant l'aéropage, au verset 19. Alors ils le prièrent, le menèrent à l'aéropage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ?» C'est un peu l'apôtre Paul sur le grill, n'est-ce pas ? Voilà, explique-toi, de quoi est-ce que tu parles ? L'aéropage, c'est probablement l'institution en charge des affaires de la ville, un groupe de personnes parmi les plus hauts placés, il y avait probablement d'autres qui assistaient aussi à cette rencontre, à ce discours que Paul a donné. Et ils voulaient savoir, mais Paul, c'est quoi ce nouvel enseignement que tu nous apportes? Et donc Paul donne un discours qui nous est rapporté à partir des versets 22 et suivants. Et donc ça nous amène à notre deuxième point, reconnaître que Dieu n'est pas comme on pense. C'est ça que Paul veut mettre en avant. On doit reconnaître que Dieu n'est pas comme on pense, dans les versets 22 à 29. Paul commence son discours en partant de ce que ses auditeurs connaissent pour annoncer ce qu'ils ne connaissent pas. Regardez le verset 22 et 23. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez sans le connaître, C'est ce que je vous annonce. » En se baladant dans la ville d'Athènes, Paul avait remarqué qu'ils avaient un autel qui était consacré à un dieu inconnu. Les Athéniens croyaient qu'il y avait plein de dieux qui existaient et qui devaient rendre des cultes à tous ces dieux. Et donc, pour ne pas risquer d'en oublier un, ils avaient consacré un autel à un dieu inconnu, juste pour être sûr d'avoir oublié personne. Bah, Paul se sert de cela pour leur annoncer le dieu qu'ils ont mis de côté, le dieu qu'ils ont oublié. Le dieu, en fait, il dit qu'ils sont en train de vénérer sans le connaître, au verset 23. Il leur dit, oui, vous avez oublié un dieu. Et en fait, ce dieu, c'est le seul vrai dieu qui existe. Il n'y en a pas d'autre. Le dieu qui a tout créé. Le dieu dont Paul parle, il est, au verset 24, le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Celui qui a tout créé. Non seulement les êtres humains qui sont issus tous d'un seul homme, comme il nous est dit, mais aussi tout le reste. Dieu est le vrai créateur. C'est vrai que les êtres humains créent des choses. On est dans une pièce où il y a beaucoup de choses qui ont été créées par les êtres humains. Mais si on y pense, toutes ces choses qui nous entourent, ces chaises sur lesquelles on est assis, le micro que j'utilise, tout ce que l'on voit autour de nous, ce n'est pas des choses qui ont été créées à partir de zéro par les êtres humains. L'être humain ne fait qu'utiliser des matières premières qui existaient déjà, que Dieu a créées. L'être humain ne fait que transformer les choses. Il ne crée rien. Mais Dieu, lui, est le vrai créateur. À partir de rien, Dieu a tout créé. Tout ce qui existe, le monde et tout ce qui s'y trouve, le monde et ses habitants, et tout ce que l'on voit autour de nous. Et donc c'est normal que ce Dieu-là soit au contrôle de toutes choses. Il nous est dit au verset 24 qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Le Seigneur de tout ce qui existe. Donc ce n'est pas qu'il y a le Dieu de la mer et le Dieu de la terre et puis le Dieu de telle ou telle chose. Non, il y a un seul Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Au contrôle de l'histoire, au contrôle des peuples, au contrôle des nations, au contrôle des vies individuelles de chacun. Ce que Paul met en avant ici, ça contraste avec les philosophies de l'époque. Paul établit la réalité d'un Dieu qui est distinct de sa création. Ce n'est pas un Dieu qui est mixé avec sa création. Ce n'est pas un Dieu qui est dépendant de sa création. Un Dieu soumis à un concept plus grand tel que la matière ou quoi que ce soit d'autre. Non, il n'y a rien de plus grand que ce Dieu-là. Dieu est dans une autre catégorie et il est le seul dans sa catégorie. Et c'est pour ça que ce Dieu-là n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien pour exister et pour continuer à exister. Nous, on a besoin de beaucoup de choses pour exister et pour continuer à exister. Pour continuer à vivre, on a besoin d'eau, de nourriture, d'oxygène, de toutes sortes de choses. Mais Dieu n'est pas comme ça. Regardez le verset 25. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Non seulement Dieu existe par lui-même de toute éternité, il a eu besoin de personne pour exister, mais Dieu continue à exister par lui-même. Il a besoin de rien ni de personne pour continuer à être qui il est. Donc on ne doit pas penser que Dieu a créé le monde parce qu'il avait besoin de nous, ou que Dieu nous a sauvés parce qu'il avait besoin de nous, ou que ces choses font d'une certaine manière qu'il est ce qu'il est. Non, Dieu aurait été le même sans nous. Dieu existe de toute éternité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, tel qu'il est, indépendamment de nous, indépendamment de tout ce qu'il fait en faveur des créatures et de sa création. Mais si Dieu n'a besoin de rien, nous, on a besoin de lui. Il est dit que c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose, au verset 25. Peu importe qu'on reconnaisse l'existence de Dieu ou pas, le fait que l'on soit en vie ce matin dépend de Dieu. Le fait que l'air passe dans nos poumons, que le sang coule dans nos veines, dépend de Dieu. Peu importe qu'on le reconnaisse ou pas, c'est un don de Dieu. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Certaines conceptions de Dieu parlent d'un Dieu qui aurait créé le monde, mais qui ensuite s'en occupe pas trop, qui ensuite le laisse se débrouiller, un peu comme une toupie qu'on lance, elle tourne, et puis ça reste comme ça, tout seul. Un Dieu distant, lointain, pas impliqué. Mais on voit ici que le vrai Dieu Le Dieu dont la Bible parle, le Dieu qui existe, qui est là, il n'est pas comme ça. Oui, il a créé le monde. Oui, il est distinct de sa création. Il n'est pas mélangé avec sa création. Il est loin au-dessus de nous. Il est dans sa catégorie unique, comme on l'a dit. Et pourtant, il est impliqué dans sa création. Il continue à prendre soin de sa création. Il n'est pas absent de la vie des humains, parce qu'à chaque seconde, leur existence dépend de lui. C'est même plus que ça, en fait. On voit que Dieu s'est fait connaître. Verset 27, « Afin qu'il cherche Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. » L'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, c'est « afin », il nous est dit, « afin que les êtres humains cherchent Dieu. » Afin qu'ils puissent le trouver. Dieu n'est pas resté lointain, Dieu n'est pas resté caché. En créant le monde, en créant tout ce qui s'y trouve, Dieu s'est révélé à nous. Dieu s'est fait connaître à nous. Il a voulu être connu. C'est visible. C'est sous nos yeux. En contemplant le monde qui nous entoure, en se regardant les uns les autres, on devrait conclure qu'il y a un Créateur. C'est ce que la Bible enseigne ailleurs, dans Romains 1, par exemple, où il nous est dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait, par ce que Dieu a fait, par ce qu'il a créé. C'est ce qu'on appelle parfois la révélation générale. Dieu s'est fait connaître de manière générale à tous les êtres humains par ce qu'il a créé, au travers de ce qu'il a créé, peu importe où il se trouve. Ce n'est pas qu'on peut tout connaître de Dieu par la création. Ce n'est pas qu'on peut le connaître comme notre sauveur et notre rédempteur. Mais c'est qu'on peut connaître son existence, qu'on peut reconnaître certaines choses sur lui. Sa puissance éternelle, sa divinité, il nous est dit. Il y a moyen de voir les choses qui nous entourent et de remonter jusqu'à la source, de tâtonner jusqu'à Dieu, on pourrait dire, pour reconnaître qu'il existe. Et l'un des endroits où on voit l'existence de Dieu, l'un des endroits où on peut apprendre des choses sur Dieu, c'est l'être humain. C'est ce qu'il est dit au verset 28. « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. » Paul ici cite un poète grec, une citation qui était connue à l'époque. Et c'est frappant de voir qu'ici, Paul parle de quelque chose que ses auditeurs connaissent, quelque chose avec lequel ils étaient d'accord, pour annoncer quelque chose d'autre, quelque chose qui est différent de ce qu'ils croient, pour l'appliquer, le transformer, l'appliquer au seul vrai Dieu. Le fait qu'on était de la race ou de la lignée de Dieu, c'était dit à l'époque à propos de Zeus, l'un des dieux grecs. Mais Paul prend cette idée et montre que cela, en fait, c'est vrai, mais en ce qui concerne le seul vrai Dieu. Paul se base ici sur ce que les premiers chapitres de la Genèse mettent en avant, le fait que l'être humain est créé à l'image de Dieu. L'être humain ressemble à son Créateur. Il y a une similitude, une ressemblance entre l'être humain et Dieu, en raison de la manière dont Dieu l'a créé. Tout comme une image pointe vers la réalité, l'être humain pointe vers son Créateur. En voyant l'être humain, on peut apprendre certaines choses sur Dieu. Et c'est justement pour ça que Dieu n'est pas comme on pense. C'est pour ça que Dieu n'est pas comme les idoles. Regardez le verset suivant, le verset 29, l'implication de cela. « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. » Les idoles viennent de l'imagination des hommes, de la créativité des hommes. Les idoles sont faites de pierre, d'argent, d'or. Elles ne bougent pas, elles ne parlent pas. Mais si nous, les êtres humains, nous sommes de la race de Dieu, de la lignée de Dieu. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, si on reflète un peu de qui Dieu est, ben alors Dieu ne peut pas être comme ses idoles. Dieu ne peut pas être un simple objet inanimé qui a été créé par les êtres humains et qui dépend des humains. Le fait d'être créé à l'image de Dieu implique que Dieu est supérieur à nous. Et donc que Dieu n'est pas fait d'or ou d'argent, que Dieu n'est pas fait par les hommes, que Dieu n'est pas le fruit de l'imagination humaine. Alors peut-être on peut sourire en pensant à la culture de l'époque. Comment est-ce qu'ils pouvaient croire que ces idoles-là, c'était des dieux? Comment est-ce qu'ils pouvaient fabriquer eux-mêmes une idole? C'est eux qui la fabriquent et ensuite se prosterner devant, penser que ça, c'est la divinité, que c'est là que se manifeste la divinité. On rigole un peu en pensant à ça, n'est-ce pas? Mais c'est pas très différent aujourd'hui. C'est facile de se créer un dieu à son image, de prendre ce que l'on aime de Dieu et de rejeter le reste. De penser justement que la religion, Dieu, c'est un peu comme le marché des spiritualités dont on a parlé. On doit choisir à chaque stand ce que l'on veut et créer son propre panier, créer sa propre conception de Dieu. C'est trop souvent notre imagination qui définit ce que l'on veut croire par rapport à Dieu. J'aime penser que Dieu est comme ça, ou comme ça. Ou alors, oui, je veux un Dieu d'amour, mais je ne veux pas un Dieu qui juge. Je ne veux pas un Dieu qui dénonce mon péché. Je ne veux pas un Dieu qui me dit quoi faire et quoi ne pas faire. Vous voyez, c'est comme si on avait dans notre cerveau des usines à petits dieux. On prend des choses dans notre cerveau et puis on les fait passer par l'usine dans notre tête et on dit « qu'est-ce que je veux garder ? Ah, je ne veux pas ça, je veux ajouter ça, etc. » Et pouf, on crée notre petit Dieu. On crée notre propre religion. Notre cœur est tourné vers ce que notre imagination humaine a produit. On entend parler parfois en ce moment de l'idée de déconstruire sa foi. C'est l'idée de prendre tout ce qu'on croit et de déconstruire l'ensemble, de faire un peu le tri pour garder certaines choses et pour pouvoir rejeter d'autres choses. Alors si en disant ça, on veut dire qu'on veut tout passer à la lumière de ce que la Bible enseigne, comme on l'a vu la semaine dernière, n'est-ce pas, de se mettre sous l'autorité de la Bible, ce serait une excellente démarche. On est tous appelés à faire ça, à faire le tri dans ce que l'on croit et de garder uniquement ce que la Bible enseigne, ce que la Bible met en avant et de ne pas penser autrement. Mais ce n'est pas ça qui se passe la plupart du temps. Généralement, déconstruire sa foi, c'est juste une excuse pour retirer ce qui nous gêne de la foi chrétienne. Pour retirer la Bible, les parties qui nous dérangent. C'est une excuse pour faire du tri en étant nous-mêmes le juge, l'arbitre de ce qui est digne d'être cru et digne d'être rejeté. C'est souvent faire marcher l'usine à petit Dieu pour créer notre propre conception de la spiritualité où c'est moi qui décide. C'est un peu la même chose dans le libéralisme théologique. Quand certains veulent accepter les enseignements de Jésus, mais rejeter ses miracles. Ou accepter une certaine morale chrétienne dans certains domaines, mais pas dans d'autres domaines. Accepter certains enseignements de la Bible, mais rejeter ce que l'apôtre Paul a dit sur certains sujets controversés. Accepter l'idée d'un Dieu unique, mais rejeter l'Ancien Testament qui révèle ce Dieu. Dans tous ces cas-là, il s'agit de créer son propre Dieu, sa propre religion, de penser que Dieu est le fruit de l'imagination humaine, de penser que Dieu se trouve sur le marché des religions et qu'on doit créer notre propre panier selon nos décisions. Quelle erreur ! Plutôt que de se créer un Dieu tel que nous on le veut, tel que nous on le pense, il faut accepter Dieu tel qu'il s'est révélé. Le seul vrai Dieu existe et il s'est fait connaître à nous. Il s'est révélé à nous, il n'est pas resté caché. Et la bonne réaction face à cela, c'est de l'accepter tel qu'il est. Malheureusement, ce n'est pas la réaction qu'on a eue, aucun de nous. La Bible met en avant comment on s'est tous tournés vers des idoles, d'une manière ou d'une autre, au lieu d'adorer ce seul Dieu vivant et vrai. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième point, à la conclusion du discours de Paul. Troisième point ce matin, faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard, dans les versets 30 à 34. Voilà comment Paul conclut son discours. Versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi, en le ressuscitant d'entre les morts. Les temps d'ignorance, ça fait référence à une période où Dieu a fait preuve de patience avant la venue de Jésus. On voit la même chose, on ne va pas le lire maintenant, mais vous pouvez le noter si vous voulez, dans Actes 14, versets 16 et 17. Actes 14, versets 16 et 17. Dieu s'est fait connaître, l'existence de Dieu était évidente, ils auraient dû reconnaître cela, mais chacun a choisi de suivre sa propre voie, de se créer des dieux, de mettre de côté le seul vrai Dieu. Et Dieu n'a pas jugé cette idolâtrie, le mépris de son nom, comme ça aurait dû l'être. C'était un temps de patience. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Dieu lui-même appelle tous les êtres humains à se repentir parce que le jugement arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, la repentance, se repentir ? Se repentir, la repentance, c'est faire demi-tour. C'est comme si on est dans la voiture ou dans le métro en train d'aller dans une direction et on se rend compte, ah, mais ce n'est pas la bonne direction. Qu'est-ce que c'est, la repentance ? D'une certaine manière, c'est réaliser que je vais dans la mauvaise direction et faire demi-tour. Ce n'est pas simplement dire « Ah, ben, je vais dans la mauvaise direction » et continuer à conduire avec le sourire. Non, c'est réaliser que je vais dans la mauvaise direction et que je devrais changer. Je dois faire demi-tour et prendre la sortie pour aller dans l'autre sens. La repentance, c'est un demi-tour et c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Il s'agit de prendre conscience qu'on n'a pas donné à Dieu l'adoration qu'il mérite, qu'on est coupable face à lui et faire demi-tour. Vouloir réorienter nos cœurs vers le bon endroit. Et si Dieu appelle tous les êtres humains à se repentir, vous et moi y compris, c'est parce qu'on a tous rejeté Dieu. Dieu n'est pas comme nous, il n'est pas au même niveau que nous, on a vu cela, il est le Créateur qui a besoin de rien. Nous, on a besoin de lui, notre existence dépend de lui. Et quelle a été notre réaction ? De rejeter ce Dieu-là, ou de l'ignorer, de le mettre de côté, de le faire passer par l'usine à petits dieux qui se trouve dans notre cerveau. On est coupable face à Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de péché. Parce qu'on a tous transgressé ce que Dieu demandait de nous. On a tous voulu décider à la place de Dieu ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et c'est pour cela qu'on doit se repentir. Et c'est encore plus important parce que le jugement arrive. C'est comme ça que Paul termine, verset 31, avant d'être interrompu. Le jugement arrive. Quand on pense au jugement, on peut peut-être penser à quelque chose d'abstrait, de lointain, le jugement dernier. C'est abstrait, c'est lointain. Mais ici, il nous est dit que c'est quelque chose de concret. C'est un jour précis. Regardez le verset 31. Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. Il s'agit d'un jour précis, particulier. Tout comme aujourd'hui, on peut pointer ce jour du doigt en disant qu'on est le 13 avril 2025, le jour du jugement. On peut d'une certaine manière le pointer du doigt en disant que c'est un jour précis. Alors on ne connaît pas ce jour, je ne vais pas vous donner des dates, ne vous inquiétez pas. Dieu n'a pas choisi de révéler quand ça sera. Personne ne peut savoir. On ne sait pas dans combien de temps ça va arriver. Mais on sait que ce jour va arriver. On sait que sur chacun de nos agendas, chacun de nos calendriers, une chose qu'on a en commun, un jour qu'on a en commun, un rendez-vous auquel on sera tous convoqués, c'est le jour du jugement. Personne ne pourra y échapper. Ce jour se trouve là, dans nos agendas, même sans qu'on le sache. On a peut-être plein de jours différents dans nos agendas, des jours importants pour nous. L'anniversaire d'une personne qui est proche, un rendez-vous important au travail, le jour des vacances, etc., etc. Mais il y a un jour qui est plus important que tous les autres, c'est ce jour du jugement. Parce que ce jour-là, le livre de nos vies sera dévoilé devant Dieu. Toutes nos actions, nos paroles, nos pensées, toute notre attitude envers Dieu sera manifestée. Et Dieu va juger, il est dit, selon la justice. Verset 31. Il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça ? Oui, d'une certaine manière. On n'est pas dans un monde où la justice règne. C'est plutôt l'injustice qui règne. C'est tellement régulier d'entendre parler de situations injustes, de plus forts qui profitent de plus faibles. C'est tellement régulier d'entendre parler de procès où c'est des innocents qui sont condamnés, des criminels qui sont libérés. L'injustice règne et on veut que la justice soit rendue une fois pour toutes. Donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une nouvelle terrifiante. parce que ce jugement, selon la justice, nous concerne chacun de nous. Dieu ne fait pas d'exception. Il n'a pas une justice à deux vitesses. On est tous coupables et on n'aura aucun moyen d'argumenter, d'expliquer, d'atténuer notre rejet vis-à-vis de lui. Si on y pense, c'est une grâce que Dieu annonce cela à l'avance. Dieu s'est fait connaître à nous, on l'a rejeté, il aurait pu s'en arrêter là. Il aurait pu juste fixer le jour du jugement sans nous prévenir, mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Non seulement Dieu nous prévient à l'avance qu'il y a un jugement et qu'il faut se repentir maintenant, mais Dieu a aussi pourvu à un moyen d'échapper à ce jugement et de recevoir le pardon. Alors c'est vrai que dans ce discours, là, le discours est terminé, Paul ne parle pas beaucoup de la solution, du moyen d'échapper au jugement. Ben déjà, on doit garder en tête que Paul est interrompu dans son discours. Et donc, il avait probablement prévu de dire plus. On sait que Paul avait pour but de parler de la bonne nouvelle de Jésus. Donc, il allait probablement dire plus, il a probablement dit plus en privé. Mais aussi, on doit réaliser que tout le discours de Paul amène à Jésus, amène à la solution. Quelle est la bonne réaction face à tout ce que Paul a dit, face à tout ce qu'on a entendu ? Face à ce Dieu qui s'est révélé, qu'on a rejeté, face à ce jugement qui arrive, c'est de dire, mais quelle est la solution? Comment faire alors? Et c'est là que la bonne nouvelle prend tout son sens. La bonne nouvelle que Dieu a mis en avant. De Jésus qui est mort sur une croix, dont la mort n'était pas une défaite, où Jésus est mort pour prendre la condamnation dont on a parlé, le jugement que l'on mérite. Oui, Dieu est en colère contre le mal, une juste colère, il juge le mal, mais dans sa grâce, dans sa bonté, Dieu a envoyé son Fils pour offrir un moyen de salut aux êtres humains qui l'ont rejeté, un moyen de pardon, alors que son Fils, Jésus, paye à notre place. Jésus est mort, Jésus a été mis dans un tombeau, mais il n'est pas resté mort. C'est ce qu'on va célébrer la semaine prochaine, la bonne nouvelle de la résurrection. Jésus est revenu à la vie, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et la résurrection de Jésus nous prouve que tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, est à prendre au sérieux. Il est littéralement revenu d'entre les morts. C'est la preuve que sa mort sur la croix était pleinement efficace. C'est la preuve que Jésus n'est pas juste un être humain. Il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le juge de tout l'univers. Et donc tout se joue dans notre réaction face à Jésus. Soit on peut se moquer, comme c'était le cas de certains au verset 32, en entendant parler de la résurrection, ils pensaient que c'était vraiment comme un conte de fées, c'était tellement lointain de tout ce qu'ils connaissaient à l'époque, et donc ils se moquent, ils rejettent cela. On peut avoir la même réaction aujourd'hui. Écouter jusqu'à un certain point, et quand ça nous gêne, on se moque. On évite de faire face à la vérité. Mais faire cela, c'est affronter le jour du jugement par nous-mêmes. C'est compter sur notre propre justice, se présenter devant Dieu avec notre propre péché, notre propre rébellion. C'est courir tout droit vers la perdition. Ou alors on peut réagir de la bonne manière, comme certains l'ont fait au verset 34. Certains ont été interpellés par ce que Paul a dit. Et Paul leur a probablement expliqué plus en détail l'évangile, la bonne nouvelle, le moyen d'être sauvé en Jésus, ce que ça veut dire de suivre Jésus. Ils ont fait demi-tour, ils se sont repentis. Et ils se sont confiés en Jésus. C'est ça la bonne réaction. C'est ça prendre Dieu au sérieux. C'est là que se trouve le pardon et le départ à zéro. Alors on a des baptêmes tout à l'heure et on se réjouit de cela, on se réjouit d'entendre les témoignages. Et alors que vous allez entendre cela, vous verrez que les baptisés du jour sont des bons exemples de cela, de personnes qui ont eu la bonne réaction face à ce Dieu qui s'était révélé à eux, qu'ils avaient rejeté. Mais ils ont fait demi-tour. Ils se sont confiés en Jésus et ils ont l'assurance de faire face au jugement sans crainte. Et donc alors qu'on termine, si vous êtes ici, que vous n'êtes pas encore croyant, que vous êtes un peu toujours à l'extérieur de ces choses-là, si vous n'êtes pas encore sûr par rapport à ces choses que vous entendez, c'est le moment de prendre ce message au sérieux. C'est frappant de voir que dans le discours, Paul dit que c'est Dieu qui appelle à la repentance. C'est Dieu lui-même qui vous appelle à vous repentir. Celui qui vous a créé, celui qui vous donne encore un jour de plus le souffle de vie, celui qui est l'origine de votre existence, celui que vous avez rejeté, c'est lui qui vous appelle à faire demi-tour avant qu'il soit trop tard. On serait heureux d'en parler plus avec vous. Tournez-vous autour de quelqu'un qui fait partie de cette église depuis un certain temps. Venez nous voir, on serait heureux d'en discuter. Et pour nous qui sommes chrétiens, alors qu'on termine, on doit se demander si on est prêt, comme Paul, à proclamer Dieu quand tous le rejettent et à suivre les bonnes attitudes, la bonne réaction que Paul a eue. Comme on l'a dit, Paul est indigné, mais il ne fuit pas. Il s'engage dans la discussion de la bonne manière. Il cherche à comprendre ceux qui l'entourent. En fait, quand on voit son discours, on voit qu'il a pris du temps à écouter les gens, à comprendre ce qu'ils croyaient, ce qu'ils pensaient, là où c'était similaire et différent par rapport à la vision du monde chrétienne. On voit que Paul cherche aussi à s'adapter. Il utilise des mots qu'ils peuvent comprendre. Il parle de manière différente. C'est frappant de voir par rapport à d'autres discours dans les Actes, où il est face à un public juif. On voit que son discours ici est assez différent. Il s'adapte. Et pourtant, Paul nous montre ultimement qu'on ne doit rien cacher. Oui, Paul prend en compte la culture qui l'entoure. Oui, Paul s'adapte, mais il ne cache pas la vérité. Il ne va pas mettre de côté les vérités qui vont un peu moins bien passer dans cette culture. Non, parce que c'est les vérités de l'Évangile. C'est les vérités du seul vrai Dieu qui s'est révélé. Et c'est les vérités qui doivent être proclamées par-dessus tout. Et c'est ça qu'on doit garder en tête alors qu'on termine. Qu'il y a un seul Dieu qui existe. C'est le seul vrai Dieu. Et ce que nous, on a besoin, ce que les autres autour de nous ont besoin, c'est que nos cœurs soient tournés vers lui. C'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui, comme on va le chanter, qui est le Dieu sublime. Donc on doit être affligé d'une certaine manière en voyant le monde qui nous entoure, qui ne donne pas à Dieu l'honneur qu'il mérite. Et ça doit nous pousser, par amour pour son nom, par égard pour sa gloire, de vouloir aider ceux qui nous entourent à avoir les cœurs tournés vers ce Dieu-là, à faire demi-tour et à se confier en lui. Prions ensemble, et ensuite je laisserai la place pour la fin et le chant et la fin. Prions. Oui, notre Dieu, nous te remercions parce que tu t'es fait connaître à nous. Tu n'es pas resté caché. Merci, notre Dieu, parce que non seulement tu t'es fait connaître à nous au travers du monde qui nous entoure, de la création, mais de manière encore plus particulière, tu t'es fait connaître à nous en la personne de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Merci parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu es un Dieu plein de grâce. Notre Dieu, on te prie qu'on ne prenne pas cette grâce à la légère et que ce temps de patience dans lequel on est ne soit pas une occasion pour certains ici de s'endurcir, mais que cette patience que tu as les pousse plutôt à la repentance. On prie cela, notre Dieu, pour que ces personnes-là puissent avoir le cœur tourné vers toi et que tu reçoives l'adoration que tu mérites. On prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va passer directement au chant que vous avez au dos de votre livret, donc j'invite les musiciens à s'approcher.